danser la salsa, c'en est une. Chanter, ce que vous savez si vous êtes déjà mis devant moi, ici à l'église. Conduire une voiture, si en cours, et je pourrais peut-être passer mon permis d'ici 2014, voire 2020, je pense que c'est raté. Mais... et enfin, je regrette beaucoup de n'avoir jamais appris à faire de la photographie. Les photos que je fais sont toujours mal cadrées, avec une mauvaise lumière. Mais au moins, j'arrive à apprécier les photos des autres. C'est un peu facile, c'est comme si je disais, je ne suis pas très fort en foot, mais j'apprécie le jeu du Barça. Bon. Mais j'arrive à apprécier les photos des autres, et surtout des photos qui capturent un tournant dans l'histoire. Quelques exemples, photos de vacances. L'homme qui marche sur la Lune, 1969, un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l'humanité. Et puis celle-là, la chute du mur de Berlin, 1989, la fin d'un demi-siècle de communisme en Europe. Un an plus tard, la libération de Nelson Mandela, tout un symbole, la fin de l'apartheid, une nouvelle Afrique du Sud, une nouvelle page qui se tourne dans l'histoire. Et puis enfin, un ton un peu plus sombre, même beaucoup plus sombre, les attentats du 11 septembre, événement qui a eu les conséquences qu'on connaît, je pense. Chacune de ces photos capture un moment où le monde a changé, un tournant dans l'histoire. Et c'est un peu la même chose dans notre passage ce soir. On est face non seulement à un tournant, mais au plus grand des tournants. Quelque chose de plus important que le premier pas sur la Lune, la fin de l'apartheid, la chute du mur de Berlin, un événement qui a changé le cours de l'histoire. Et aussi un événement qui fournit la clé d'une énigme, celle de l'identité de Jésus. On n'en a pas des photos, mais on a un témoignage, le témoignage de quelqu'un qui était là, qui a vu de ses propres yeux, le témoignage de Jean. Et lui veut nous démontrer ceci. À la base de la foi chrétienne, il y a un événement historique, vu par des témoins, transmis jusqu'à nous, qui change tout. À la base de la foi chrétienne, il y a un événement historique, vu par des témoins, transmis jusqu'à nous, qui change tout. Je vous propose de procéder en trois temps. Premier point, il a vu et il a cru. Mon Seigneur et mon Dieu. Et troisième point, il écrit pour que nous ayons la vie. Premier point alors, il a vu et il a cru. Notre passage commence deux jours après la crucifixion de Jésus. Marie-Madeleine, une amie de Jésus, accablée par ce qui vient de se passer, va voir le tombeau. Essayons de nous mettre à sa place. Elle avait passé trois ans avec cet homme qui avait fait et dit des choses incroyables. Il avait guéri des gens, il avait nourri une foule à partir d'un petit peu de pain et quelques poissons. Il avait marché sur l'eau, ressuscité un homme mort depuis quatre jours. Mais plus encore, il a affirmé être le sauveur du monde. Mais Marie-Madeleine vient juste le voir mourir. Et là, ce n'est pas simplement une déception, ce n'est même pas juste une expérience douloureuse, c'était l'effondrement de tout ce qu'elle avait commencé à croire. Tôt le matin, elle va voir le tombeau, et là, choc terrible, quelqu'un a déplacé la pierre qui bloquait l'entrée. Elle a dû se demander que s'était passé. On dirait que quelqu'un a volé le corps de Jésus. Mais qui? Et pourquoi? Comme Marie, Pierre et Jean sont eux aussi toujours sous le traumatisme de la mort de Jésus. Deux jours après la crucifixion, je ne sais pas s'ils arrivaient vraiment à réfléchir clairement. À mon avis, ils pensaient surtout à leur propre survie. Est-ce qu'ils avaient peur qu'on vienne les chercher eux aussi? Je ne sais pas. Je me demande quelles émotions leur sont passées par la tête quand Marie-Madeleine est arrivée dire « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Est-ce qu'ils étaient en colère? Est-ce qu'ils avaient peur? Est-ce qu'ils se sont demandé qui a pu le faire et avec quelle motivation? En tout cas, ils se mettent à courir dans les ruelles de Jérusalem. Il se précipite au tombeau. Et Jean arrive le premier. Mais il n'ose pas rentrer. Il s'arrête devant. Il se baisse. Il regarde à l'intérieur. Il aperçoit quelque chose de curieux. Les bandelettes que portait Jésus, toujours là. Étrange. Pierre arrive, il entre en premier dans le tombeau. Il voit les bandelettes, mais c'est autre chose qui retient son attention. Le linge qui recouvrait la tête de Jésus, roulé et posé à part, comme si quelqu'un l'a soigneusement mis de côté. Enfin, Jean entre à son tour, il voit les bandelettes, il voit le linge, et puis, c'est le déclic. Je ne sais pas si vous connaissez la série policière Sherlock, qui passe sur France 4. Sherlock Holmes, détective londonien de renommée, est mandaté pour enquêter sur des meurtres, en règle générale. Et généralement, Holmes est confronté à un mystère que personne n'arrive à résoudre. Mais lui, il a le don de repérer le détail qui va tout éclairer. Une tache sur l'habit de la victime, un billet de train dans sa poche, une trace de couleur sur un tableau, quelque chose en apparence insignifiant, mais qui est en fait la clé qui permet d'éclaircir le mystère. Eh bien, quelque chose de similaire se passe ici dans l'esprit de Jean. Quel a été son raisonnement exact? On ne le sait pas. Peut-être qu'il s'est dit que si les bandelettes et le linge étaient encore là, c'est que le corps n'avait pas été volé, parce que des voleurs les auraient probablement pris pour les épices très chères dont ils étaient imprégnés. C'est une possibilité. Ou peut-être que Jean s'est souvenu de choses que Jésus avait dites. Jésus avait dit peu avant sa mort, par exemple, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me reverrez. » Et sur le moment, ses disciples n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Mais peut-être, je dis peut-être parce que c'est une hypothèse, mais peut-être que là, dans le tombeau, Jean a fait le lien entre ces bandelettes et ce linge mis de côté dans le tombeau et cette parole de Jésus. Il voit ces bouts de tissu et il comprend. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Jésus n'est plus mort. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Trois remarques sur ce récit. D'abord, ce qui arrive était complètement inattendu pour les disciples. On rencontre parfois des gens qui disent que les disciples auraient simplement inventé la résurrection de toute pièce. Mais en fait, la résurrection, c'était la dernière chose à laquelle ils s'attendaient. Ils croient tout d'abord que le corps a été volé. Et puis, regardez le verset 9, je ne l'ai pas affiché. Mais on voit que ils n'avaient pas compris les Écritures de l'Ancien Testament qui annonçaient d'avance que Jésus devait ressusciter. L'Écriture l'annonçait, mais eux, ils n'avaient pas compris. La résurrection, c'était la dernière chose à laquelle ils s'attendaient. Deuxième remarque, c'est le récit d'un témoin oculaire. Alors, j'ai essayé de souligner quelques éléments qui le montrent. On ne voit pas très bien, mais Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entra pas. Et puis, je pense que c'est ma phrase préférée de tout le récit. Il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il a été roulé à part dans un autre lieu. Il y a un tas de détails et c'est exactement le type de détails qu'on raconterait si on parlait de ce qu'on a soi-même vu. On est à 1000 kilomètres du langage d'un mythe ou d'une histoire que quelqu'un a juste inventée. Enfin, troisième remarque, ce qui s'est passé est lourd de sens. Jusqu'à ce moment, Jean était face à un puzzle. Et il y avait une pièce très importante qui manquait pour compléter ce puzzle. Jésus avait prétendu être le Fils de Dieu, mais s'il était mort, est-ce que ce n'était pas juste des paroles en l'air? Mais Jean, dans le tombeau, trouve la pièce qui complète le puzzle. Il comprend que puisque Jésus est vivant, tout ce qu'il avait dit à son propre sujet est forcément validé. Et ce que Jean voit est en soi très banal. Des linges par terre dans son tombeau. Il n'a pas une expérience spirituelle fumeuse, pas de vision, pas de rêve. Mais ces quelques linges sont pourtant lourds de sens. Et Jean comprend que Jésus est ressuscité et donc il est celui qu'il prétendait être. Premier point, il a vu et il a cru. Deuxième point, mon Seigneur et mon Dieu. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, non mais attendez, le fait de trouver un tombeau vide ne prouve absolument pas que Jésus était revenu à la vie, il pourrait y avoir d'autres explications. Et c'est vrai. Et ce qui se passe ensuite va bouleverser même le sceptique le plus acharné. Dans le film Matrix, l'humanité a été emprisonnée dans un monde virtuel par des machines intelligentes. Et Keanu Reeves joue le personnage Neo, qui est pressenti comme l'élu, celui qui doit sauver l'humanité. À la fin du film, Neo est tué dans une bataille avec ses ennemis. Et là, tous les espoirs semblent s'éteindre. Comment Neo peut-il être cet élu s'il est mort? Mais ensuite, Neo revient à la vie. Il y a ce moment où il se lève, il arrête en plein air des balles qu'on tire sur lui, et l'évidence saute aux yeux de tous. Et un des camarades de Neo dit, il est l'élu. C'est un moment très fort dans le film, que je recommande à tout le monde, c'est un de mes films préférés. C'est un peu la même chose avec Thomas dans notre passage. 8 jours se sont écoulés depuis que Pierre et Jean sont allés au tombeau, et entre-temps, Jésus est apparu vivant, en chair et en os, à ses disciples. Mais le problème, c'est que Thomas n'était pas là quand les disciples ont vu Jésus. Et lui, il n'y croit pas. Il a besoin de preuves tangibles. Il a besoin de voir la marque des clous dans les mains de Jésus. Il a besoin de mettre le doigt dans la blessure sur son côté. Il veut s'assurer que cet homme que les autres disciples ont vu, vivant, c'est bien le même homme que celui qui a été crucifié 2 jours auparavant. Et on peut le comprendre. Parfois, je me demande si on n'a pas une vision un peu naïve des disciples, comme si le vendredi soir, après la crucifixion, ils étaient là à se dire « Dimanche, ça va être génial !» Mais non, ce n'était pas ça. On a déjà vu, ils ne s'y attendaient absolument pas. Et Thomas n'arrive pas à croire que Jésus est vivant. En tout cas, 8 jours plus tard, les disciples sont ensemble dans une maison, Thomas est là, et les portes sont fermées. Et Jésus apparaît dans la pièce. J'aurais beaucoup aimé pouvoir voir le visage de Thomas à ce moment-là, bouche bée à mon avis. Et puis Jésus se tourne vers Thomas et il dit, « Thomas, regarde mes mains. Thomas, mets ton doigt dans ma blessure. Thomas, ne sois pas un croyant, mais crois. » Voici Thomas comme figé en voyant Jésus vivant devant ses yeux, incapable d'échapper à la réalité. C'est le point culminant de tout l'évangile de Jean. Et Thomas dit, « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur. » Et mon Dieu. On aurait peut-être pu s'attendre à ce qu'ils disent, mais est-ce que ça va? Est-ce que tu n'as pas mal? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Parce que même le sceptique Thomas est obligé de reconnaître une chose. Au vu de tout ce que Jésus avait déjà dit et fait, Jésus est vivant, égal, Jésus est Dieu. C'est comme si le fait de voir Jésus vivant devant ses yeux jetait de la lumière sur tout ce que Jésus avait dit jusque-là. Jésus avait dit être le Fils de Dieu, Dieu fait chair, venu parmi nous. Et le Père, en le ressuscitant, a mis son cachet. Oui, c'est vrai, voici mon Fils. Et Thomas comprend cela. Et il comprend que si Jésus est vivant, Jésus est Dieu. Mais non seulement Thomas comprend que Jésus est Dieu, Thomas l'appelle mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'est pas simplement en train de constater un fait, il n'est pas simplement en train de dire « oui, d'accord, tu avais raison, tu es Dieu ». Non, c'est personnel. Mon Seigneur, mon Dieu. Thomas comprend que si Jésus est ressuscité, s'il est le Seigneur et Dieu de tout l'univers, eh bien, il est aussi de sa vie. Et l'incrédule, le sceptique, s'agenouille devant Jésus. Je me demande ce qu'il faudrait pour nous amener au même point. Je me demande ce qu'il vous faudrait pour faire votre les paroles de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Je suis sûr qu'à ce moment-là, il y avait des tas de choses que Thomas ne comprenait pas encore. Mais il a compris l'essentiel. Il a compris que Jésus est son Seigneur et son Dieu et que c'était la résurrection qui en donnait la preuve. Voilà le cœur du message chrétien, cette invitation à faire du Seigneur ressuscité de l'univers son Seigneur et son Dieu. Peut-être que pour vous aussi, il y a des tas de choses que vous ne comprenez pas encore. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir dire avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu? Troisième point, il écrit pour que nous ayons la vie. Cette année, on marque le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses de prévues pour le commémorer, des cérémonies, des documentaires à la télé. À moins qu'il y ait ici quelqu'un de beaucoup plus âgé qui n'en a l'air, personne d'entre nous n'était vivant pendant la Première Guerre mondiale. Mais ça ne nous empêche pas de croire non seulement que la Première Guerre mondiale a eu lieu, mais aussi d'en savoir pas mal de choses. Parce qu'on a reçu les témoignages des gens qui y étaient. De la même manière, on n'était pas dans la même pièce que Thomas et les autres disciples quand Jésus est apparu. Et c'est donc à nous, entre autres, que Jésus pense quand il dit au verset 29 « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors, pris hors de son contexte, je pense que ce verset pourrait donner l'impression que Jésus fait l'apologie d'une foi aveugle, irréfléchie, irrationnelle. Comme s'il disait à Thomas « Bon, toi tu as eu besoin de me voir, mais ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus pieux, beaucoup plus spirituel de croire sans demander de preuves. » Et beaucoup de nos contemporains pensent que c'est effectivement ce que les chrétiens préconisent, une foi aveugle. Je me souviens, il y a quelques années, avec quelques amis, on distribuait des Bibles devant la Sorbonne, pas très loin d'ici, et une femme, visiblement fâchée à cause de ce qu'on faisait, est venue vers moi en pointant du doigt vers la Sorbonne, en disant « C'est ça la vérité, c'est ça la raison, pas ce que vous faites. » C'était clair ce qu'elle voulait dire. Tu es chrétien, tu es quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu as une foi aveugle. Mais je ne pense pas que ce soit ce que Jésus préconise ici. Je pense qu'il veut plutôt dire « Heureux ceux qui, sans m'avoir vu, accueillent le témoignage de mes porte-paroles accréditées. » Heureux ceux qui, sans m'avoir vu, accueillent le témoignage de mes porte-paroles accréditées. Jean est un de ces porte-paroles. Et son but, c'est de nous permettre d'arriver à la même foi que Thomas. Et pour le faire, il va mettre à l'écrit des moments clés dans la vie de Jésus pour que nous ayons assez d'informations pour arriver à une conclusion solide et raisonnable. Écoutez ce qu'il dit au verset 30 et 31. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Aujourd'hui, il y a des photographes et des journalistes dont le métier consiste à suivre partout certaines personnalités politiques, leurs visites officielles, leurs discours, ils voient un petit peu ce qui se passe en coulisses aussi. Je pense qu'ils apprennent à plutôt bien se connaître. Le photographe qui suit un chef d'État prendra des centaines de photos. Le journaliste qui suit un président va recueillir plein d'informations. Mais quand il se met à faire son reportage, il va sélectionner seulement les éléments les plus pertinents pour ce qu'il veut faire. Imaginez que vous êtes le reporter qui a suivi le président Hollande depuis le début de son quinquennat. Quels épisodes est-ce que vous allez sélectionner pour votre reportage sur sa présidence jusqu'ici? Sans doute la soirée électorale, son inauguration à l'Élysée, peut-être son intervention sur l'affaire Cahuzac, peut-être ses déclarations sur l'intervention française en Mali ou en Centrafrique. Des épisodes clés, avec probablement des commentaires pour les expliquer, qui permettent de bien connaître le personnage. Et l'évangile de Jean suit la même logique. Il ne nous dit pas tout ce que Jésus a fait, mais il nous livre les éléments les plus pertinents au propos de Jean. Jean nous présente une sélection de signes. Ce sont des miracles que Jésus a faits qui nous éclairent sur sa personne. Chacun de ces signes a un sens, une signification, ce vers quoi le signe nous dirige, bien particulier. Les voilà en vrac. Jésus transforme l'eau en vin. Il guérit le fils d'un officier royal. Il guérit un malade le jour du sabbat. Il multiplie des pains pour nourrir une foule. Il marche sur l'eau. Il guérit un aveugle. Et il ressuscite Lazare qui était mort depuis 4 jours. Chacun de ces signes nous montre une facette de l'identité de Jésus. Quand Jésus transforme de l'eau en vin, par exemple, ça nous montre qu'il va inaugurer une nouvelle ère d'abondance et de renouveau. Quand il multiplie des pains, il montre qu'il est le seul à pouvoir nourrir véritablement. Eh bien, la résurrection, c'est le signe ultime. C'est la clé de voûte. C'est ce qui éclaire tout le reste. C'est ce qui montre de manière irréfutable que Jésus est celui qui prétendait être le Christ, le Fils de Dieu. Et Jean, le témoin, le porte-parole accrédité, nous livre ces signes, pas pour étoffer notre culture générale, mais pour que nous puissions arriver à la même foi que Thomas. Pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, nous ayons la vie en son nom. Tout l'objectif de ce livre est de nous faire passer, comme Thomas, de l'incrédulité, que ce soit dû à l'indifférence, que ce soit dû à l'hostilité vis-à-vis de Dieu, à une foi personnelle en le Seigneur et Dieu de l'univers. Pas une foi aveugle, mais une foi qui repose sur un événement historique, vu par des témoins, transmis jusqu'à nous, et qui change tout. Il y a un enjeu vital derrière tout ça, littéralement. Que nous ayons la vie, cette communion, cette relation restaurée avec notre Créateur. Alors la résurrection de Jésus est ce tournant dans l'histoire comme il n'en a jamais eu de pareil. C'est le signe par lequel Dieu dit « Oui, Jésus est celui qui dit être ». Et nous avons le récit de ceux qui en sont les témoins. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à faire de ce tournant dans l'histoire, un tournant dans notre histoire à chacun? Est-ce que nous sommes prêts à faire ce que Jean, le porte-parole accrédité de Jésus, nous invite à faire? Est-ce que nous sommes prêts à dire avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu? Je vous invite à la prière. Jésus a dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci de nous avoir livré le signe ultime par lequel tu attestes que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Je te prie de nous aider à comprendre ce que ça veut dire, comprendre ce que ça veut dire pour nous tous. Et je te prie que tu nous permettes de dire avec Thomas, mon Seigneur est mon Dieu. Amen.